Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Quelle est l'étendue de la compétence des juridictions militaires sur les civils? Il peut arriver que certains civils soient impliqués dans certains crimes ou des problèmes dont la compétence relève des juridictions militaires. Alors ces cours, on peut dire est-ce que ces cours ont les droits des jugés aussi les civils? On en parle aujourd'hui avec notre invité, Maître Ruffin Loucault, juriste, écrivain et chercheur en droit. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui.
Alors nous parlons aujourd'hui de la compétence, de l'étendue de la compétence. D'ailleurs, c'est un sujet qui nous a été proposé par un auditeur. Nous encourageons les auditeurs à les faire également. Vous avez des préoccupations, des sujets, n'hésitez pas de nous les communiquer. On ne manquera pas d'aborder ces thèmes-là avec vous dans cette émission. Alors, on parle des juridictions militaires. Pouvez-vous d'abord nous parler de ces juridictions?
Voilà, donc évidemment, donc les cours et tribunaux congolais sont composés des tribunaux de droit écrit, ou bien qu'on appelle également et en général les cours et tribunaux ordinaires, et les cours et tribunaux spécialisés. Et ces cours et tribunaux spécialisés, il y a parmi eux, cours et tribunaux, les tribunaux militaires, n'est-ce pas? Il y a les tribunaux spécialisés, les tribunaux pour enfants, les tribunaux de commerce, les tribunaux, n'est-ce pas, de travail. Tout ça sont des cours et tribunaux spécialisés. Spécialisé, ça veut dire qui ne concerne qu'une catégorie spécifique des citoyens ou des compatriotes.
Voilà.
Alors, ça veut dire la justice militaire est une justice spécialisée, pas spéciale, spécialisée, ça veut dire c'est uniquement
pour les hommes en uniforme.
Pour les hommes en uniforme et précisément pour les militaires. Ça veut dire les gens qui ont prêté serment de défendre la patrie. Rien que la patrie, n'est-ce pas, et les territoires et ses frontières. Donc ces gens-là qui sont, comme on le dit en expression courante, sous le drapeau, sont donc les gens qui sont justiciables principalement des juridictions militaires. Donc la justice militaire est d'abord principalement destinée à une justice spécifique, une justice du corps, une justice du corps, du métier, ça veut dire déjà en uniforme.
Alors, donc, est-ce que ces juridictions militaires peuvent aussi juger les civils?
Alors, comme l'auditeur a proposé ça, ce thème est très technique. Et l'habitude de cette émission, lorsque nous sommes en face de thèmes aussi techniques, nous les réduisons, n'est-ce pas, à la compréhension de tout le monde.
C'est ça.
Donc, nous évitons de nous expliquer dans les termes techniques.
Voilà.
Alors, justice militaire. Et on l'a vu, évidemment, il y a des cas. Le plus récent, c'est le cas du pasteur Denis Lessy, n'est-ce pas, qui est civil et qui a été jugé par la justice militaire. Il y a aussi le cas de Coutinho, qui était civil et qui avait également été jugé par la justice militaire.
Oui.
Et je peux citer d'autres cas. Mais sinon, comment en est-on arrivé là? Quel est, n'est-ce pas, le régime juridique en ce qui concerne la solution lorsque les civils se retrouvent devant la justice militaire?
Oui.
Le principe, c'est que la justice militaire est incompétente à ce qui concerne les civils. Ça veut dire incompétente, ça veut dire
elle ne peut pas juger les civils.
Elle ne peut pas juger. Incompétente, c'est pas dire non, hasard, mais elle était. Non.
Oui.
Incompétente signifie ce n'est pas de sa compétence
de juger,
les civils parce que il est écrit que la compétence est d'attribution. Ça veut dire que c'est la loi qui attribue la compétence. La loi dit Jodika Chamaï est compétent pour présenter cette émission. Mais présenter les DEC, Jodika Chamaï est incompétent.
Oui.
Ça, c'est la loi. Donc, la loi dit, la justice militaire, c'est uniquement pour les civils, les militaires.
Alors, maintenant, comment expliquer que certains civils, vous venez de citer d'ailleurs certains cas, sont retrouvés devant la justice militaire?
Alors, en quelles conditions les civils sont justiciables devant la justice militaire? Alors, nos auditeurs retiennent ça. Voici le régime juridique qui permet à la justice militaire de juger les civils. 1. Si un civil a commis une infraction contre l'armée, ça c'est un, contre les biens de l'armée, n'est-ce pas,
et avec des militaires de l'armée, avec des matériels de l'armée. Je reprends. Il a commis une infraction contre l'armée,
oui,
contre les matériels de l'armée, et avec usage des matériels de l'armée qu'on appelle armes de guerre. Dans ces conditions-là, eh bien, vous n'allez pas vous échapper, vous serez jugé par la justice militaire. Alors, lorsqu'on parle maintenant du cas où un militaire et un civil ont agi par coréité. Coréité, c'est un terme technique,
oui,
mais j'utilise le terme par participation. Donc, ils ont agi ensemble pour, oui, commettre une infraction.
Oui.
Dans ces cas-là, le principe qui est posé par le code judiciaire militaire, et je l'ai ici devant moi dans mon ordinateur, eh bien, c'est que la juridiction militaire doit éclater les poursuites, il fait l'enquête, et lorsqu'il doit saisir le juge, il doit traduire les civils devant le tribunal compétent, ça peut être le tribunal de grande instance ou le tribunal de paix, et les militaires devant le tribunal de police, le tribunal de garnison ou la cour militaire. C'est selon le grade de ces militaires-là. Donc, en ce qui concerne la coparticipation,
oui,
la justice militaire était compétente de juger les civils, sauf si dans cette participation-là, dans cette coparticipation, ils ont agi ensemble, association de malfaiteurs ou consorts où ils ont volé ensemble,
ils ont
fait usage d'une armée de guerre.
Alors prenons par exemple les cas, on attrape des hommes armés dans le véhicule, des armes un peu partout dans le coffre, et c'est un civil qui conduisait ces véhicules. Ça peut être un chauffeur des taxis, un simple chauffeur qu'on a pris des forces, on l'a pris des forces pour les conduire à exécuter une sale besogne quelque part.
Voilà.
Alors à ce moment-là, est-ce que ce monsieur sera jugé par les juridictions militaires ou pas?
Alors, la loi prévoit que si c'est tel que vous le citez là, à moins que les taximens n'aient pas si l'intention ou la parade à laquelle se livre la bande qui les transporte. À moins qu'il n'ait pas si. Ils l'ont pris tout simplement comme un simple taximen,
oui,
et lui n'a pas si. Mais s'il a si, ça veut dire qu'il a participé d'une manière ou d'une autre à la perpétration, à la facilitation de la perpétration de cette infraction.
Avec son véhicule.
Avec son véhicule,
oui.
Avec son transport. Eh bien, comme il y a eu usage d'armes de guerre, ça veut dire qu'ils étaient armés. Armes de guerre, ça veut dire les Kalachnikov, tout ce que les militaires utilisent pour la guerre ou pour l'ordre public. Tout ça, ce sont des armes de guerre. Et s'il y a eu usage d'armes de guerre, le code judiciaire militaire prévoit que les juridictions militaires sont compétentes
dans ces cas-là,
avec ou sans civil dedans. Donc
d'accord,
s'il y a un civil,
oui,
et que dans l'infraction qu'ils ont commise ensemble, il y avait usage d'armes de guerre,
oui,
la justice militaire est compétente. Alors vous vous rappellerez donc, à ce qui concerne, si on peut citer ces cas-là, à ce qui concerne Denis Lessie, la justice militaire s'est appuyée sur le fait que Denis Lessie a agi avec des militaires, n'est-ce pas? Avec des militaires, et on a considéré que lui a incité ces militaires-là à commettre des préventions, et donc la justice militaire était, oui, compétente.
Compétente à ce moment-là.
D'accord,
on va accueillir un auditeur qui est là en ligne.
On n'avait pas encore terminé totalement,
mais
évidemment
ça
va se poursuivre.
Il
n'y
a pas de
questions.
Problème. Vous avez dit qu'il y avait combien de cas? 6 cas.
Oui.
6 cas de figure qui autorisent les juridictions militaires à juger les civils.
Tout à fait.
Alors, Chance Kalinga nous appelle de Kolwezi. Bonjour Chance.
Bonjour Radio Capi, bonjour l'invité. Je voudrais juste apporter une modification. Je suis à Kamina et non à Kolwezi, au Katanga.
Chance et à Kamina. Berry va essayer d'être un peu plus vigilant. Merci. Alors, allez-y.
J'ai suivi l'invité, vraiment, il a introduit son émission, donc son sujet. Il a donné les principes. Selon les principes, les civils ne peuvent pas être arrêtés au tribunal militaire. Mais, par exception, il a donné toutes ces exceptions qu'il venait de lister. Mais je voudrais aussi savoir, est-ce aussi une exception, surtout pour le cas des infractions de contrefacteurs, vous allez voir aussi pour les usages de faux, vous allez voir que ce genre d'infraction-là, que ce soit pour les militaires ou les civils, les justiciables sont souvent inquiétés par le tribunal militaire. On ne sait pas, est-ce aussi une exception en cette matière ou comment qu'il nous explique. Merci beaucoup Radio Capi.
Bien, nous avons un autre auditeur. Lambert de Lumbashi, bonjour. Lambert, bonjour.
Bonjour à l'invité. Bonjour, M. Joly.
Quelle est votre question?
Merci à notre invité et excellente journée à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio.
Soyez bref, allez-y tout droit à la question, s'il vous plaît. Allez-y rapidement.
Oui, monsieur Jody, j'ai une petite question à poser à l'invité. J'aimerais peut-être savoir, est-ce que si une personne a commis un acte et on parle de porter plainte, par exemple, dans l'auditorat militaire, est-ce que l'auditorat militaire est réservé pour les militaires ou bien pour les civils? C'est ça un peu ma question que...
Bien. D'accord, merci beaucoup. Quelle est l'étendue de la compétence des juridictions militaires sur les civils? Vous avez des questions et préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Bien, quelle est l'étendue de la compétence des juridictions militaires sur les civils? La première question des chances, les Kamina qui dit, souvent, quand on attrape les contrefacteurs, on les amène devant les juridictions militaires. Alors, il veut comprendre pourquoi. Généralement, oui. Quand il y a de tels cas, on a arrêté un contrefacteur, on les traduit directement devant une juridiction militaire.
Bon, d'abord, il faut se rappeler, notre population doit savoir que les magistrats militaires, autant que les inspecteurs militaires, inspecteurs judiciaires ou OPJ militaires, ont une compétence générale d'abord. Ils ont une compétence générale. Donc ils peuvent, dans ce qui concerne les enquêtes, arrêter toute personne. Ils ont le pouvoir d'interpeller toute personne.
Oui.
Il faut donc retenir ça que non, ce n'est pas abusif que les magistrats militaires, donc du parquet, les inspecteurs militaires et les OPJ militaires convoquent des civils. Ça, ce n'est pas abusif. C'est dans leur compétence. Mmh. C'est lorsque maintenant ils doivent traduire cette personne devant les juges qu'ils ont les devoirs d'éclater en ce qui concerne les compétences. Ça veut dire, lorsqu'il doit traduire la personne devant la justice, ça veut dire les juges, pour qu'on les condamne ou qu'on la quitte, eh bien, n'est-ce pas, il faut maintenant qu'ils veillent, ceci, les civils, à les envoyer devant les juges
des droits communs, voilà.
Ou les militaires devant leurs juges. Mmh. Alors il faut aussi remarquer que sur l'étendue du trésor national et que cette question-là s'est posée depuis l'indépendance, la justice militaire a toujours prouvé depuis longtemps et étant une justice spécialisée comme étant la plus robuste que la justice des droits communs. Et là je parle comme un praticien qui a assez d'évidence, la justice militaire est aujourd'hui celle qui a donné les réponses pratiques en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles. Et donc, faire reculer les phénomènes de lutte contre les violences sexuelles, c'est la justice militaire qui a été la chef de lance. Et donc, c'est une justice sur laquelle on peut compter. Et c'est depuis longtemps, à cause de son efficacité, que le législateur a considéré que non, il fallait lui donner assez de pouvoirs, notamment chaque fois qu'il y a participation entre les civils et les militaires, n'est-ce pas,
les cas sont déférés directement
devant. Parce qu'elle est efficace dans la répression. Parce que c'est une justice essentiellement et principalement pénale.
D'accord.
Les affaires civiles ne sont pas traduites devant la justice pénale.
Allez-y avec les autres principes. Vous avez parlé du premier principe. Le civil peut être jugé par une juridiction militaire lorsqu'il y a une infraction contre l'armée, mm-hmm. Avec le matériel de l'armée.
Mm-hmm.
Voilà.
Contre l'armée, oui. C'est-à-dire une infraction contre l'armée,
contre le matériel,
contre
de, l'armée
et avec et ça, usage
du matériel de l'armée. Alors, deuxième principe.
Deuxième principe, c'est lorsqu'il y a participation entre civils et militaires à la même prévention, ça veut dire. Dans la première parade, c'est que les civils indistinctement peuvent, tout en ayant agi seul, il a commis une infraction contre l'armée,
oui.
N'est-ce pas? Il a commis une infraction contre le matériel de l'armée, ou il a, n'est-ce pas, fait usage des matériels de l'armée, ça veut dire l'armée de guerre.
Oui.
Mais dans l'autre parade, c'est que les civils et les militaires ont agi ensemble.
La participation.
Criminelle.
Oui.
Parce que ils ont agi ensemble.
D'accord. Troisième principe.
Alors, troisième principe, donc, oui. le principe, c'est le temps de guerre. Lorsqu'il y a un tas de guerre, comme à l'est du pays, il y avait un tas de guerre. Là, la situation est différente parce que la justice militaire prend les décisions sur toutes les autres justices.
En temps de guerre.
En temps de guerre.
D'accord.
La justice militaire, donc, a des pouvoirs le plus étendus pour sanctionner toute personne qui aura commis une infraction, et en principalement à l'atteinte à la sécurité de l'État, trahison, espionnage et consorts.
Mm-hmm.
Donc là, les pouvoirs de la justice militaire sont étendus parce qu'on est en temps de guerre.
D'accord.
Donc je voulais juste préciser que l'efficacité de la justice militaire a permis, parce que la différence dans la justice militaire, et là, parce qu'on vise d'abord la discipline des militaires, il faut d'abord sanctionner, Et le principe, c'est que c'est le commandant de l'unité qui donne, qui livre son élément pour la justice. Et généralement, lorsque le commandant livre son élément vers la justice, c'est qu'il y a déjà plus de 20 à 30% de présomption de culpabilité. Si le commandant livre son élément,
oui,
c'est qu'il y a déjà présomption que l'élément s'est mal comporté. Et que, à marge de la sanction des corps, la sanction disciplinaire, la justice doit agir. Et c'est ainsi que, pour la plupart des cas, lorsque le commandant livre son élément vers, oui, la justice militaire, mm-hmm, ça aboutit toujours, ça se solde par une sanction. Donc la justice militaire agit toujours, c'est-à-dire les faits sont déjà presque établis.
D'accord.
Et c'est à cause de cette efficacité que vous, oui, voyez, même beaucoup de nos compatriotes préfèrent saisir
directement la justice
militaire, parce qu'ils savent que non, là, c'est très robuste, et la personne soit va payer rapidement, va retourner l'argent, ou par rapport à l'infraction, il va avoir...
Mais par exemple, par rapport aux dettes, à l'argent, est-ce non, que non, la non, justice non, militaire est compétente
non, pour juger même la justice civile n'est pas compétente en ce qui concerne, oui, l'argent, parce que souvent, ce sont des contrats civils,
oui,
sauf s'il y a une infraction. Donc, les contrats civils ne sont pas justiciables des prisons, comme on dit par la population.
Donc, on peut dire que dans tous les cas où il y a eu usage d'armes, directement, on défère les
si
cas...
Si vous avez fait usage d'une arme de guerre. Et lorsqu'on parle d'armes de guerre, il faut faire la distinction entre les armes de chasse et les armes de guerre. Les calibres 12 sont des armes de chasse. Ce ne sont pas des armes de guerre. Les Kalachnikov et toutes les autres armes lourdes que vous connaissez, que la population connaît, donc là il y a...
Mais si on a fait l'usage des armes blanches...
D'armes blanches, oui, comme une machette. Oui. Non, la compétence militaire. Mais vous pouvez faire usage d'une arme blanche, par, oui, exemple. Un couteau, une baïonnette, ça c'est une arme de guerre. Une baïonnette, c'est une arme militaire. Donc, si c'est une machette ordinaire, c'est donc la justice militaire n'est pas compétente.
D'accord.
Ça doit être une arme de guerre.
Voilà.
Lorsqu'on parle des armes de guerre,
okay,
ce sont les Kalachnikov et bien d'autres
catégories.
Donc, les armes qu'ont d'autres les militaires pour la guerre.
D'accord. Christian Tchibouaboué, Talumbashi, Bin Lueso à Goma. Et Malona nous appelle, c'est Malonga, je crois, de Bandonville. Christian Tchibouaboué, de Lumbashi, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, aujourd'hui, je salue à tous les auteurs de la radio Kati.
Quelle est votre question?
Ma question, maman, était, je voulais vraiment savoir, il y a eu un cas en flagrance où moi, j'ai vécu, il y a eu normalement un militaire qui a surpris un monsieur avec son taxi en train de voler. Alors, par imprudence, normalement, ce taxi est parti s'écrouler dans un trou. Il n'a pas, en tout cas, su comment sortir. Et le militaire est arrivé, on a normalement arrêté le monsieur. À ma grande surprise, normalement, il y a eu maintenant échange, normalement, de je dirais, il commence vraiment à se tirailler le militaire et les gens du bureau D pour normalement que les dossiers soient transférés au parquet. Mais ces dossiers, normalement, au moment où je vous parle, on a transféré ça dans un quartier normalement militaire. Ça veut dire que le militaire, lui, il s'est saisi du dossier. Alors, ma question était de savoir,
oui, comment Christian, est-ce que Christian,
le militaire là pouvait normalement saisir du dossier et ramener le monsieur dans un quartier militaire où il sera normalement entendu, ou c'est les gens du bureau D ou les OPJ qui devraient normalement saisir du dossier.
Oui, Christian, vous dites qu'il y a un taximan qui était en train de voler et le militaire l'a attrapé, ouais, c'est ça?
Oui, j'ai dit, il y a eu un monsieur normalement qui était en train de voler. Alors,
oui,
il était au bord d'un taxi. Et normalement, il y a eu un militaire qui l'a surpris en flagrance en train de voler. Il a pris normalement ce taxi-là pour ramener ça dans un quartier militaire. Alors, je voulais normalement savoir, est-ce que normalement, doit...
Le vol, comment s'est passé le vol? Est-ce que c'est le monsieur qui était dans les taxis était armé? C'était un vol à main armée ou un vol simple?
Non, le monsieur n'était pas armé. C'est-à-dire qu'on a surpris dans son taxi, il y avait normalement des effets il y avait en tout cas un sac de riz, un sac de sucre.
D'accord.
Alors le militaire a normalement pris le taxi pour amener ça dans un quartier militaire où normalement loge le militaire. Mais je ne sais pas maintenant la suite. Est-ce qu'ils seront entendus par cette justice militaire ou on va normalement transférer ce dossier au parquet?
Merci Christian Bin, l'USO de Goma, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, j'aimerais un peu demander, parce que tout ce que l'invité a énuméré là-bas, je trouve que c'est le contraire de tout ce que nous sommes en train de vivre dans des villes. Alors j'aimerais demander, quelle est la différence entre le jugement militaire qui se fait là-bas au parquet et le jugement civil qui se fait dans le camp des militaires. Parce qu'on trouve souvent, quand vous en avez un de guerre avec un militaire, vous vous trouvez directement dans le camp, vous êtes jugé et écroué dans le camp militaire. Alors, j'aimerais savoir quel est ce jugement. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer le jugement qui se fait dans le parquet là-bas, le jugement militaire et le jugement civil qui se fait dans le camp militaire. Alors, j'aimerais un peu comprendre ces synonymes parce que nous sommes victimes de tout ça dans le camp, dans les différents camps de la vie.
D'accord, merci. Malonga de Bande Nouville, bonjour. Quelle est votre question?
Oui, bonjour à tout le monde. Bon, moi aussi, c'est le même cas. Je vois que je demande souvent à notre invité. Si un civil ou un militaire sont en conflit avec la loi, moi je vois souvent que c'est la justice militaire qui domine. Puisque c'est le militaire qui va supprimer la justice et qui va attaquer les civils. Puisqu'ici chez moi, je dis, j'ai vécu cette expérience. Moi je suis vendeur.
Qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience?
Oui, je suis un vendeur. J'ai ma maison ici de divers. J'avais vendu un article il y a une semaine déjà à un enfant militaire. Moi, je ne savais pas si il était un enfant d'un colonel. Après une semaine, je dis, j'ai vu encore cet enfant revenir avec cet article pour faire rentrer ça. Et moi, je lui donne encore son argent. Je dis, en tout cas, ma sœur. Après une semaine, oh! En économie, on dit que les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni remises.
Ni reprises.
Quoi ça? Il m'a agressé, elle m'a agressé. Or, elle était une enfant d'un colonel.
Et qu'est-ce qui est arrivé?
Seulement, après quelques heures, troupes de militaires venaient m'arrêter.
Oui.
Alors, j'ai fait aussi appel à notre président économique ici. Il était venu, mais il n'était pas entendu. Alors, j'ai payé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Vous avez passé combien de temps au cachot?
Non, je n'ai pas fait. J'ai donné de l'argent. J'ai donné beaucoup de l'argent pour échapper.
Oui, pour être en prison,
tout ça.
D'accord.
Alors, j'ai vu que c'est la justice militaire qui domine souvent sur la justice civile. Malgré qu'il n'y a pas la guerre, malgré qu'il y a la paix, c'est le militaire qui domine seulement.
D'accord, merci. Albert Sango de Goma. Bonjour. Albert Sango.
Non, je ne suis pas à Goma. Je suis à Kindu.
Vous êtes plutôt à Kindu. On vous écoute, Albert.
Oui, bon. Bonjour Radio Capi, bonjour cher à l'invité.
Bonjour. Quelle est votre question?
Ici, nous connaissons les cas de vols armés chaque nuit. Chaque nuit, les vols armés. Et souvent, ce sont les militaires qui s'amènent avec leurs véhicules et qui font leur forfait. Bon, nous préparons de notre manière. Au cas où nous attrapons un militaire dans la partie et que nous l'exécutons par rapport à la défense légitime, mais qu'est-ce que la justice militaire prévoit dans ces cas-là?
D'accord, maître Rufin Oulouko.
Merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui ont posé les questions, qui nous ont salués. Alors, il faut préciser à tous nos auditeurs que dans nos cas militaires, il n'y a pas que des militaires. Dans nos cas militaires, il y a les militaires qui sont logés, mais également leurs familles qui sont des civils.
Leurs dépendants.
Donc, ces familles-là ne sont pas justiciables de la justice militaire. Elles sont des civils, sont justiciables dans nos cours des tribunaux ordinaires. Ça veut dire le tribunal de grande instance, le tribunal de paix et consorts. Si vous avez, et alors rappelez-vous du principe au départ, pour que la compréhension soit étanche et limpide, la justice militaire est compétente par principe contre les militaires. Ça veut dire, quelle que soit l'infraction qu'a commis le militaire, qui va le juger? C'est la justice militaire. Quelle que soit l'infraction qu'il a commis. Ça peut être une infraction militaire, strictement militaire, ou une infraction de droit commun. C'est la justice militaire qui est compétente. Mais en ce qui concerne les civils, lorsque vous avez, vous civils, posé une infraction, commis une infraction contre l'armée, contre les biens des militaires, contre le personnel militaire, eh bien, vous allez vous retrouver devant la justice militaire. C'est pourquoi, nous, la population civile, nous avons le devoir de respecter notre armée, de respecter les biens de l'armée. C'est nous qui devons protéger et les militaires et leurs biens. Nous devons également les protéger. Nous avons le devoir de les protéger, de les respecter. Non seulement que l'armée a été dotée de pouvoirs pour protéger ses biens, mais également la population a le devoir de protéger les biens parce que c'est nous, la population, qui dotons l'armée de tout ce qu'il a comme bien.
Nous devons donc protéger. Et lorsque nous ne faisons pas notre devoir, et nous commettons des infractions contre ces biais-là, contre les personnels et contre, n'est-ce pas, j'ai cité l'armée, les biais de l'armée et les personnels de l'armée, eh bien, nous sommes justiciables devant les justices militaires. Alors, la population, évidemment, remarque, comme nous l'avons dit, que non, la justice civile s'impose sur la justice privée. Elle ne s'impose pas par principe. C'est parce qu'elle donne l'air d'être, elle, plus robuste,
plus efficace que,
plus efficace que la justice des droits communs. Parce
qu'il y a mal à prenons le cas de Malonga. Ça, il est vendeur, il a sa boutique. Voilà, la fille du colonel vient acheter un article. Elle revient une semaine après avec l'article pour dire non, je ne veux plus cet article. Et le monsieur refuse d'échanger. Et voilà, plus tard, les militaires arrivent et on l'arrête. Il a dû débourser beaucoup d'argent. Alors, bon. il a l'impression que ce sont les militaires qui font la loi.
Non, t'as dit par ça, peut-être sa boutique est à côté des gars militaires. Il paye
la fille d'un colonel.
Bon, ça ne dit rien. La fille d'un colonel, c'est une citoyenne comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde. Donc, ça veut dire, il ne doit pas y avoir de trafic de violence.
Et non, d'ailleurs, M. Malonga peut se plaindre.
Il doit se plaindre. S'il y a arrestation à la
justice militaire,
doit se plaindre à la justice militaire parce que l'enfant, soit peut-être, il doit d'abord se plaindre à la justice militaire. Comme il la trouve la plus robuste, la justice militaire, on doit compter sur elle. Elle a donné ses preuves.
Un civil peut aller porter plainte à la justice militaire.
Tout le temps, la plupart des cas, ce sont des civils qui sont victimes des actes des militaires qui portent plainte. Donc, les civils ont le droit et le pouvoir d'aller, n'est-ce pas, déposer plainte devant la justice militaire. Et la justice militaire est ouverte partout où il y a des garnisons militaires. La justice militaire est ouverte à tous les civils pour se plaindre. Et parce que la justice militaire, il est rarement d'abord question qu'on demande l'argent. N'est-ce pas? C'est notamment l'une de ses qualités en ce qui concerne son efficacité. Et que là, aussitôt que l'on a déposé la plainte, les convocations sont lancées. Contrairement à un certain nombre de bureaux de la justice des droits communs, où avant qu'on envoie les convocations, il faut d'abord que vous déposiez l'argent. Donc, ça veut dire, nous pouvons compter notamment sur la justice des militaires pour... Et j'ai dit que la justice militaire, tous les magistrats ont compétence générale, tous les OPJ militaires ont compétence générale, ils ont donc pouvoir d'abord d'instruire à l'égard de tout le monde. Ils peuvent, c'est pourquoi vous avez vu devant la justice militaire attendre un gouverneur de la province. Parce que cette justice a compétence générale. Il peut attendre toute personne pour des raisons d'enquête. Il peut attendre toute personne, que ce soit ministre, que ce soit civil, que ce soit journaliste, que ce soit étudiant, que ce soit un élève, à moins qu'il soit mineur. Mais cette justice est donc à compétence générale. Donc, ça c'est donc pour lui tout simplement que non, la population également a remarqué que la justice militaire...
Alors, un monsieur qui a volé les sacs de riz dans son véhicule et un militaire vient l'attraper et amène ce véhicule et tous les contenus au niveau du camp.
Il faut vous plaindre, la justice militaire d'avoir été hiérarchisée. Donc, si vous vous plaignez auprès de l'auditaire supérieur des garnisons, vous les verrez agir et récupérer ces véhicules si c'est arbitrairement que ça a été introduit dans les camps. Oui. Mais donc, t'as dit.
Donc, ce militaire n'a pas le droit de le faire.
Il n'a pas le droit de le faire et la population doit veiller et ses émissions ont un caractère pédagogique pour, n'est-ce pas, informer nos populations que voici vos droits, voici vos limites, voici ce que vous devez respecter, voici, n'est-ce pas, vos devoirs et vos obligations.
Alors, on va accueillir Pascal Kazadi de Lubumbashi. Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour monsieur, bonjour la radio Kapi.
Quelle est votre question?
Ok, ma préoccupation est celle-ci. Le tribunal militaire jugeait un civil, à mon avis, moi je trouve ça abusif, parce que je peux donner un exemple. Lorsque vous transférez déjà une personne devant le tribunal militaire, il y aura déjà des amendes. Ils doivent être payés avant que cette personne soit transférée au tribunal civil. Donc moi, à mon avis, je trouve ça vraiment abusif. Et c'est pourquoi je demande à notre consultant qu'il puisse vraiment bien éclairer
sur ces sujets. Voilà, il estime que c'est abusif de transférer un civil devant un tribunal militaire. Revenons d'abord à Albert de Kindu qui dit qu'à Kindu, il y a beaucoup de vols armés. Alors, il ne sait pas quelle est la procédure ou la voie des recours.
Voilà. Alors, en ce qui concerne les vols armés, considérez d'abord que les vols armés est puni de la peine capitale dans notre pays, la peine de mort. Donc, si vous êtes attrapé en train de voler avec des armes, eh bien, vous serez condamné à la peine capitale et ils sont nombreux dans nos prisons qui y croupissent pour avoir volé avec des armes, avoir fait usage d'armes de guerre pour anéantir, terroriser la population. Alors, lorsque vous avez attrapé un militaire en train de faire ça, évidemment, nous ne pouvons pas permettre que la population c'est face justice à elle-même. La justice militaire, sire, et les statistiques le prouvent, sire, 100% des cas qui arrivent devant elle, pour association malfaiteur ou vol à main armée, la justice militaire condamne toujours. La justice militaire condamne toujours. Ce qui fait que la population, vous avez le devoir. Mmh. Si vous pouvez, dans la mesure de vos moyens, de vos capacités.
Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour ce genre de cas. Peut-être qu'il a volé un arme, même parce qu'il avait fait, il n'était pas payé. Bon, il a fait usage de son arme pour...
Vous ne pouvez pas faire usage de ton arme pour survivre. Donc le militaire, lorsqu'il est doté de l'arme, c'est pour défendre la patrie. C'est pour défendre la patrie principalement. Donc c'est exceptionnellement que le militaire peut faire usage de cette arme pour se protéger d'abord, pour défendre la patrie. C'est pourquoi la nation lui dote d'une arme. Vous voyez, donc il ne lui est pas autorisé d'en faire usage pour chercher de l'argent, pour chercher la nourriture.
Ou un hold up dans une banque quelque part.
Ce n'est pas une arme de chasse.
Oui.
Ce n'est pas une arme de chasse, c'est une arme de guerre pour la protection du territoire, pour la protection des institutions. C'est ça le but principal de la dotation d'une arme par les militaires. Oui. Alors, si la population attrape, vous l'attrapez, vous l'amenez devant la justice militaire. Et souvent, l'organe de proximité, c'est la police. Et la police, elle est traduite devant la justice militaire. Et souvent, ces gens sont sanctionnés. Mmh. Donc, c'est parce que souvent, on ne vous donne pas les statistiques. Mais si vous allez dans les garnisons militaires, vous demandez la statistique, vous verrez que souvent, ces gens-là sont sanctionnés. Donc, nous avons le devoir d'amener chaque fois, n'est-ce pas, tous ces gens-là devant la justice pour être condamnés. Alors, c'est lui qui dit,
Pascal,
que c'est abusif.
Il ne voit alors, pas comment on peut amener un civil devant
Pascal,
la justice militaire.
J'en profite pour informer Pascal qu'il y a un projet de loi qui va modifier cette loi de 2002. Le code judiciaire militaire, cette loi d'ailleurs est en discussion actuellement devant le Parlement et il y a un projet qui est déjà soumis, n'est-ce pas, un projet qui est déjà soumis à la justice militaire pour donner ses avis et considérations et bon, il y a eu beaucoup trop de pression par rapport à ces projets-là pour que l'on puisse éclater définitivement les civils ne comparaîtront plus jamais devant les militaires. Et là, c'est un débat, nous, le praticien, chercheur et scientifique, nous sommes dans ce débat-là en considérant que c'est vrai. Les instruments internationaux nous imposent que nous puissions mettre les civils de côté, les militaires de côté,
oui.
Mais il y a une certaine nécessité de la répression qui nous oblige de réfléchir des fois avant de consacrer définitivement ces principes. Parce que chaque fois que les militaires et les civils agissent ensemble, le militaire semble être plus dangereux lorsqu'ils ont agi ensemble que les civils. Et donc, il faut donner à la justice la plus robuste, la plus spécialisée dans la répression à connaître de ces cas-là. Donc, c'est un débat. Et donc, je rassure donc Pascal que ce qu'il considère comme abusif, n'est-ce pas, le nouveau projet est en train de prendre ça à charge, ça veut dire pour éclater que les militaires soient jugés par la justice militaire et les civils exclusivement
ou soit il faut renforcer la justice civile dans la répression.
Oui, évidemment, et ces réformes-là qui semblent patauger alors qu'ils avaient déjà pris un élan. Il faut donc renforcer la justice des droits communs, civils, pour que la répression puisse également revenir dans ces pays. C'est ce qu'on appelle la politique de lutte contre l'impunité. Si on parle d'impunité, c'est parce que principalement, dans la justice des droits communs, l'impunité a plus ou moins, je ne vais pas dire élu des missiles, mais il a droit de citer là-bas par rapport à la justice
militaire.
Elle, principalement, c'est la sanction. Rien que la sanction, avant tout la sanction pour la discipline des militaires.
Pichu Chimanga nous appelle de Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour les auditeurs de la radio Capi. J'ai trois petites questions à poser à notre invité.
Oui.
Il a trouvé celle-ci. Si un militaire se trouve lésé par le comportement d'un civil, qu'il décide d'aller le traduire à la justice militaire, là, y a-t-il des vices de procédure? La deuxième est celle-ci. Pourquoi des fois l'ANR et la justice militaire ont tendance des fois à se quereller pour les dossiers des personnes qualifiées contrefacteurs, des civils qui sont des contrefacteurs. Est-ce que le fait de se quereller sur ces dossiers, est-ce que les contrefacteurs là sont leur arrestation par l'ANER, des fois par la justice militaire, est-ce que c'est de leur compétence? La troisième question est celle-ci. Je me rappelle en 2008, le général de la 9e région militaire, le numéro 1 de tous les militaires de la province orientale, a été giflé par un huissier de l'auditorat militaire. Et maintenant, le général avait bien agi parce que le huissier commettait des forfaits. Quand le général est venu intervenir parce qu'il y avait un huissier qui tracassait le civil dans sa propre maison, dans son propre domicile, quand le général était de passage, il s'est arrêté pour intervenir, le huissier a giflé le général. Et le général a intervenu, l'auditeur couvrait le huissier et il y a eu les conflits entre l'auditeur de garnison qui était là de notre province orientale et le général de la 9e région qui est le numéro 1 de la province. Et à cela, les dossiers, qui va traiter ces dossiers et sera géré dans quelle instance? Merci beaucoup.
Bien, merci, Maître Ruffin.
Merci, voilà, donc la contribution de la population pour donner les cas par cas. Alors, Pichuchi Manga demande si, quelle est la situation dans les cas des contrefacteurs. Souvent, la justice militaire et l'ANR
est en conflit. Il y a conflit entre les deux services.
Qui concerne les contrefacteurs. Alors, d'abord, par principe, la contrefaçon de la monnaie, c'est une infraction de droit commun. C'est une infraction de droit commun, donc justiciable devant la justice. Il y avait, à un certain moment, je peux donner l'époque, où c'était également justiciable devant la Cour de sûreté de l'État. Donc, la contrefaçon de la monnaie. Donc, ça portait plus ou moins atteinte, n'est-ce pas, et à la sûreté de l'État, à la sûreté intérieure de l'État. Mais la législation a évolué aujourd'hui, c'est une prévention de droit commun. Mais comme c'est une question d'argent, et si vous pouvez considérer que certain nombre de personnes n'agissent là que pour l'intérêt de l'argent et non l'intérêt de la nation, vous pouvez donc trouver des gens qui s'agitent parce qu'il y a contrefaçon de l'argent, oui. Il y a des milliers de dollars qu'on a contrefait, il y a des montants énormes.
Un conflit d'intérêt, oui.
Et alors, ça peut être un conflit d'intérêt. Donc, la loi considère que, je rappelle que les OPJ militaires, les APJ, les inspecteurs militaires, les magistrats militaires ont une compétence générale. Ils ont donc le pouvoir d'interpeller toute personne. S'ils ont reçu une plainte, s'ils ont reçu une plainte contre une personne, ils l'interpellent d'abord et ils les instruisent. Maintenant, pour saisir la justice, c'est-à-dire les juges, les tribunaux, eh bien, c'est là qu'ils doivent, les civils chez les civils, les militaires chez les militaires. Donc, ça, c'est important. Mais s'agissant du cas du huissier qui gifle un général, c'est trop grave. Ça,
et
c'est
qui est protégé par l'auditeur.
Et c'est trop grave parce que le commandant région est le chef du corps, est le chef de l'armée dans la province. Il est le chef de l'armée dans la province. Et à ce titre-là, même l'auditeur des garnisons dépend de lui. À ce titre-là, en tant que commandant de la région militaire. C'est vrai, la justice est indépendante. C'est vrai, j'insiste là-dessus, la justice est indépendante. Mais comme lui est général, commandant région, même la justice militaire dépend de lui dans la province. Dépend de lui en ce qui concerne les statuts militaires. En ce qui concerne l'administration de la justice militaire ne dépend pas de lui.
Et le huissier ne peut pas légiférer.
Non, dans tous les cas, un huissier n'a pas droit à mettre, j'ai dit dans tous les cas, un huissier, qu'il soit huissier civil ou militaire, n'a pas le droit de porter sa main
sur le
général.
Donc il doit être directement jugé.
Militaire. Oui. Il doit être directement jugé. Ça, c'est une flagrance. En principe, cet huissier-là aurait dû être traduit en flagrance devant le tribunal de garnison ou le tribunal de police. Pour le sanctionner.
Quel type de sanction?
Non, c'est le coup de blessure porté contre. Si c'était militaire, si c'était un huissier militaire, il y a beaucoup de fractions par rapport à ces coups-là. Il n'y a pas que le coup de blessure. Il y a même outrage à l'endroit de ce. Et j'ai vu beaucoup de militaires être sanctionnés pour outrage à supérieur, si c'était militaire qui a porté ces coups-là. Donc il y a plusieurs préventions, infractions, et on aurait dû les sanctionner. Par flagrance, pour que plus jamais ça ne revienne, nous ne devons pas accepter que des huissiers considèrent des généraux comme des citoyens quelconques. Et puis, cette histoire-là de coups et blessures, vous voyez, donc il faut donc que ça soit combattu de la manière
d'accord.
La plus
acerbe. Maître Ruffin, on retient ceci, que les juridictions militaires peuvent juger les civils dans certaines conditions. Vous avez dit, premièrement, lorsqu'il y a une infraction contre l'armée,
voilà.
Avec le matériel de l'armée et avec...
contre les biens de l'armée,
voilà, contre
les personnels de l'armée.
Voilà, les personnels de l'armée. Lorsqu'il y a participation civile et militaire, et lorsqu'on
a fait
usage voilà,
d'armes de guerre.
D'armes de guerre, et lorsqu'on se retrouve en temps de guerre, comme c'était à l'est du pays.
Et concluer que les juridictions militaires sont incompétentes dans tous les cas contre les personnes de moins de 18 ans. Incompétentes dans tous les cas.
D'accord.
Quelle que soit la prévention, quel que soit ce qui a été commis.
Maître Ruffin Louco, juriste, écrivain et chercheur en droit. Merci et bonne journée.
Je vous en prie et à tous nos auditeurs.